Pour arranger un différend, vaudrait mieux utiliser une aiguille qui coud au lieu d'un couteau qui tranche. L'heure africaine sur CFM, au Tungebwam, soyez les bienvenus, vous écoutez le Farafine Afrique. Suivons le voyage au Cameroun, pays d'Afrique centrale peuplé d'environ 20 millions d'âmes et surnommé l'Afrique en miniature. Lors de la précédente émission, nous avons abordé l'histoire et la géographie de ce pays et parlé des principaux rythmes de musique qui font guincher le pays des lions indomptables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une écriture inventée à la fin du 19e siècle par un roi camerounais. Ce système d'écriture est l'un des rares qui ait été inventé en Afrique noire sans aucune influence extérieure à proprement parler. Je vous diffuserai également l'entretien que m'a accordé M. Jacques Frétet, biologiste marin qui habite dans le Lot, dans une commune tout près de Keylus, et qui aide à la création d'un parc marin au Cameroun. En préambule, je vous invite à écouter l'un des artistes camerounais les plus connus sur les scènes internationales. Il s'agit du bassiste Richard Bona. S'il est vrai que le Cameroun est un véritable vivier de talents musicaux, les musiciens camerounais internationalement connus se sont pas mal distingués à la guitare basse. Tout de suite, écoutons le plus connu d'entre eux donc, Richard Bona, qui interprète le titre Kalabankoro, chanté en langue douala.
Babo Yami bolo etandena na mwase mungende na tindi wala bosinga bongo nyole yobami mukutinde na na kibe mwe na sikwala kemo kina wo njemo ebuli wala kina wo njemo ebuli
Sontila,
ni sontila, ah, canadila,
canadila,
ni sontila, mono, ah, canadila. polene te longo dise Nune velone na umango Nende lambe du na dike Silba to bomba titi edu bina
Suka la
Richard Bonin est un bassiste camerounais né dans une famille de musiciens et de chanteurs. Multi-instrumentiste, il s'est essayé au balafon, à la flûte et à la guitare sèche avant d'adopter la basse lorsqu'il découvre le jazz. La vingtaine passée, il débarque en Europe pour suivre des études de musique en Allemagne puis en France et accompagne alors déjà les plus grands, que ce soit Manu Dibango, Salif Keita ou dans un autre registre, Jacques Higelin entre autres. Sous l'ère Pasqua au ministère de l'Intérieur, son titre de séjour relatif à son statut de musicien n'est pas renouvelé. La raison officielle étant que trop de bassistes français étaient au chômage. Après un bref retour au pays natal, le chanteur américain Harry Belafonte, qu'il avait rencontré à Paris, lui propose de s'installer aux États-Unis. Il s'envole et s'installe à New York, où il vit désormais. Il sera pour quelque temps le directeur musical des spectacles du crooner américain. Il va écumer les clubs de jazz et multiplier les collaborations avec bon nombre d'artistes. Quincy Jones, Paul Simon, Chaka Khan, Bobby McFerrin, Tito Puente, Herbie Hancock Jr. pour ne citer que ceux-là. Il passe d'un style à l'autre, du jazz à la salsa, voire la musique country. Bref, le non-renouvellement de sa carte en France lui a ouvert des horizons que nombre de bassistes français au chômage doivent aujourd'hui lui envier. 6 albums solo plus tard, le 7e qui sortira dans les jours qui viennent, de nombreux prix dont celui du meilleur artiste international en 2003 aux Victoires du Jazz, ou encore récemment au Grand Prix de la SACEM de 2012, où il a obtenu le Grand Prix du Jazz. Bonapinde Yayumaya Lalo continue son petit bonhomme de chemin.
Wendy, for what's that you've been in a battle?
bindu tunye pono mbenga Emale yebiso makane Idale koisinga Njeba malangwa no wana Mama toni mbuleri Mbate wa sopo Namu mwano mabu mwabjonga Lobole ya babona babemba Mbando sen, sen, sen Monini ya bato Tumaladi mudi mando Nduta nune bako mbando Mbando sen, sen, sen Kalado kunini ya bato Amune wande Sunti mbamuwa Ibenjebe sibi Unini ya mwekwa ngende diena Ikata masima Asima kata mulopo Makro makro pende kenge Basibi unini ya mwekwa ngemba Ikata masima Asima kata mulopo Bambo bambo tori Babimo Dikata masima Koba Dikata masima Asima kata mulopo Ese tumbama ya move Lambo manongo nwewe bende Mba Dikata masima Asima kata mulopo Mbole tamamba Sen, sen, sen Dikata mamba Dikata masima Asima kata mulopo Mbando sen, sen, sen
C'était Osensen, du musicien camerounais Richard Bonham. Je vais maintenant vous parler d'un des rares systèmes d'écriture inventés en Afrique noire de manière indépendante par un souverain de l'ouest du Cameroun. Il s'agit de l'écriture Bamoun, de l'ethnie Bamoun, inventée par le sultan Njoya. Le sultan Njoya naît en 1873. Il succède très tôt à son père, à peine 15 ans plus tard, secondé jusqu'à sa majorité par sa mère. 17e souverain de la lignée, il régnera durant une cinquantaine d'années sur son peuple, les Bamoun, dont le territoire se situe à l'ouest du Cameroun et dont le chef-lieu est la ville de Foumban. Le sultan Njoya est jusqu'aujourd'hui toujours considéré par les Bamoun comme le souverain par excellence, tant il a marqué les esprits, autant ses sujets que la postérité, par sa sagesse, son intelligence et son courage. Au cours de son règne, il devra faire face à deux guerres civiles. Il introduira l'islam de par une alliance stratégique avec une ethnie musulmane du nord du Cameroun. Et jusqu'à présent, la religion musulmane est la religion dominante chez les Bamoun. Il aura à gérer la période charnière qui voit arriver les premiers Européens, tour à tour allemands, britanniques, ensuite français. Tout au long de sa vie, il fera preuve d'une ouverture et d'une curiosité sans commune mesure. Vis-à-vis d'abord de son peuple, il a énormément contribué à l'essor de la culture Bamoun sans rupture brusque avec le passé, notamment avec la création d'une écriture, une cartographie de son territoire. Il écrivit un livre de médecine traditionnelle et un autre ouvrage sur l'histoire et les cultures Bamoun. Il inventa une langue secrète également, qui était en lien avec l'écriture dont je vais vous parler. Il fit également preuve d'une activité étonnante dans les domaines politiques, économiques ou religieux. Il mena par exemple une réforme juridique qui modifia les structures sociales de son peuple. Ainsi, il fit abolir certains privilèges royaux et alléger des coutumes à caractère pénal en supprimant un grand nombre de règles dont la transgression était punie de la peine capitale. Par exemple, ceux qui récoltent du vin dans la palmeraie royale cessent d'être condamnés à mort. Par ailleurs, il inventa également une religion inspirée à la fois de l'islam, du christianisme et de l'animisme. Son ouverture aux cultures et civilisations extérieures lui dictèrent de faire évoluer les traditions des Bamoun et d'envisager une société nouvelle. Il aurait certainement fait sienne la phrase de Tikenja qui dit que tradition n'est pas toujours signe de sagesse. Parmi ses inventions, l'écriture est donc vraisemblablement l'une des plus importantes. L'idée d'inventer une écriture propre à son peuple lui vient de la découverte du Coran et de l'écriture arabe. Le mythe associé à la naissance de cette écriture voudrait qu'un homme lui soit apparu en rêve et lui ait demandé de prendre une planchette et d'y dessiner une main, puis de laver le dessin et de boire l'eau du lavage. Le lendemain, le roi fit tel qu'il avait rêvé, puis rassembla ses plus proches collaborateurs et leur dit « Si vous dessinez beaucoup de choses différentes qui nous entourent et que vous les nommiez, je ferai un livre qui parlera sans qu'on entende ». Au départ, son écriture comptait plus de 500 signes, principalement des pictogrammes et des idéogrammes. Au fil des années, Njoya simplifia le système, notamment en définissant un ensemble de syllabes, en combinant plusieurs signes pour former des mots, et ainsi de suite. Après six transformations, il arriva en 1918 à créer un système d'écriture comportant 70 lettres ou signes. Cette écriture appelée Akaoku était enseignés dans les écoles et utilisés dans l'administration du royaume. C'est au moyen de la nouvelle écriture qu'il participa à la rédaction de l'ouvrage qui relate l'histoire Bamoun. Il fit mettre par écrit les lois, les traditions et les coutumes de son peuple. Il institua un bureau d'état civil où étaient recensées les naissances, les décès, les mariages. Les jugements royaux étaient également consignés. Plusieurs milliers de documents originaux sont toujours conservés au palais à Foumban. D'ailleurs, s'agissant du palais Bamoun, il fut construit également sous le règne du sultan Njoya et fut achevé en 1917. Il est d'une véritable magnificence et est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite un musée en son sein que je conseille à tous, Camerounais ou voyageurs, de visiter. Après la Première Guerre mondiale, les Allemands qui étaient présents en pays Bamoun depuis plus de 20 ans laissent la place à l'administration française. Njoya s'opposa à l'idée de colonisation qui germait dans l'esprit des nouveaux arrivants et il fut tout d'abord démis de ses pouvoirs traditionnels vers 1925, puis destitué par la France en 1931. Il mourut en exil et sous résidence surveillée 2 ans plus tard. Sa présence et son charisme absent, le pouvoir colonial français va alors interdire l'apprentissage ou l'utilisation de l'écriture et la langue qui lui était associée, inventée par le sultan Njoya, craignant peut-être qu'elle serve de dénominateur commun à une éventuelle rébellion. Cette écriture tombera dans l'oubli. Ce n'est que très récemment que le sultan actuel des Bamoun, le sultan Ibrahim Bombo Njoya, petit-fils du sultan Njoya, a ouvert une école au sein du palais édifié donc par son grand-père afin de raviver l'intérêt des jeunes Bamoun à cette écriture qui fait partie de leur patrimoine.
Même le chef d'État meurt.
Oh, you want.
C'était le titre « Même les chefs d'État meurent » de Petit Pays, artiste camerounais contestataire et assurément l'un des plus populaires. Ce titre, sorti dans les années 90, lui avait valu quelques démêlés avec le gouvernement. Surnommé le Turbo d'Afrique ou encore l'avocat des femmes, il est incontournable dans toute bringue au Cameroun. Bonjour Monsieur Freté et merci de nous recevoir dans le cadre du Farafina Trip. Vous êtes un biologiste de renommée mondiale et vous vous intéressez aux tortues marines. Vous menez différents projets en Afrique de l'Ouest et du Centre et notamment au Cameroun. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous souhaiterions connaître un peu, déjà, comment est venue votre passion pour les tortues ?
Ma passion pour les tortues, en particulier les tortues marines, c'est venu avec un séjour que j'ai fait en Guyane dans les années 70, où j'étais là pour les serpents venimeux avec l'Institut Pasteur, et je suis arrivé sur des plages qui s'avéraient être des plages importantes au niveau mondial pour une grosse tortue marine, la plus grosse tortue qui existe actuellement, qui est la tortue lutte. Et donc je suis arrivé sur ces plages, et aussitôt j'ai commencé à travailler, et donc j'ai été repéré assez vite au niveau international par des Américains qui s'intéressaient à cette espèce. Et de fil en aiguille, je suis devenu comme ça spécialiste des tortues marines alors que j'étais qu'un jeune chercheur.
Vous menez différents travaux de recherche, de conservation ainsi que de protection de tortues marines en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, que ce soit en Mauritanie, au Sénégal, le Cap-Vert, le Cameroun. Pourriez-vous nous parler un peu de votre travail dans ces pays-là et en quoi il consiste pratiquement ?
J'ai découvert quelques sites de ponte dans les années 80, en particulier au Gabon, et de fil en aiguille, j'ai proposé à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices. Vous savez, les États de plus en plus ratifient des grandes conventions, et parmi les grandes conventions, comme celle de Rio sur la biodiversité, la Convention de Washington sur le trafic de faune et de flore, il y a une grande convention qui est la Convention sur les espèces migratrices, où la France a un rôle d'ailleurs assez important et une des pièces maîtresses de cette convention. Donc j'ai proposé à la Convention de Bonn de faire un accord des États africains, ouest-africains, les États d'Afrique occidentale, disons, c'est-à-dire tous les États qui ont une façade atlantique de l'Afrique, de faire un mémorandum d'accord pour la conservation des tortues marines. Donc ça a été fait à la suite d'une réunion à Abidjan en 1999, et actuellement 23 États africains ont signé ce mémorandum. Donc je suis le coordinateur scientifique de ce mémorandum, et j'assure un appui technique, en quelque sorte, aux États pour la conservation des tortues marines. Alors ça peut paraître bizarre de s'occuper uniquement des tortues marines, mais parler tortues marines, ça permet de régler un certain nombre de problèmes, ou de voir un certain nombre de problèmes sur la pollution des eaux marines, sur la santé des côtes, le tourisme, parce que aussi, bon, il peut y avoir des zones où il y a beaucoup de tortues, ça peut être intéressant au niveau touristique.
Les populations côtières aussi.
Voilà, tout à fait. Bon, en Afrique, pratiquement toutes les populations côtières mangeaient de la viande de tortue, utilisaient la graisse, utilisaient parfois les cailles, comme c'est le cas à Sao Tomé-Principe. Et donc ça veut dire aussi trouver des solutions pour des alternatives à cette viande ou à cette graisse de tortue. Donc il y a tout un volet de plus en plus d'aides communautaires pour essayer de trouver, par des petits élevages ou autres, trouver des alternatives à ces produits d'espèces menacées.
Donc ça commence par la sensibilisation de ces populations sur...
Sensibilisation, puis un travail vraiment... en profondeur, qui est plus de l'anthropologie souvent, ou de l'ethnozoologie, essayer de voir, parce que certains produits peuvent être utilisés en médecine traditionnelle, par exemple. Bon. Et voir un peu comment on peut remplacer les choses, voir un peu s'il y a un dispensaire, voir comment on peut par ailleurs aider le dispensaire. Et donc, bien sûr, c'est de la sensibilisation, mais au-delà de ça, c'est aussi des discussions avec les pêcheurs, discussions avec les femmes des villages pour voir un peu quels sont leurs problèmes, essayer de régler leurs problèmes. Donc, il y a tout un aspect humanitaire des choses, et de plus en plus en Afrique, je fais plus d'humanitaire. Pas pour pouiller ce mot-là, mais on peut dire aussi aide communautaire, que de la biologie. Parce que la conservation des tortues marines, ça ne passera que par l'acceptation par les populations et qu'ils se rendent compte que ce sont des espèces menacées. Ils ne s'en rendent pas compte, parce que, sauf si ce sont des villages où il y a la télévision, mais c'est quand même assez rare sur les côtes africaines, parce que pour eux, ils voient beaucoup de tortues. Ils sont dans des zones où il y a des tortues. Donc venir leur dire que les tortues sont menacées, ils ne vous croient pas.
Vous revenez du Cameroun où vous aidez à la mise en place d'une zone de protection, donc un parc marin.
Oui, c'est un parc national marin. Ce sera le premier parc national marin du Cameroun. Donc c'est au sud de la ville de Kribi, entre Kribi et et Campo.
Donc au sud-ouest du Cameroun.
Voilà, à la frontière, ça ira jusqu'à la frontière avec la Guinée équatoriale.
D'un point de vue, on va dire, géostratégique, ce parc marin est en discussion. Juste au-dessus de ce parc, il y a en projet également de créer un port autonome en eau profonde. Donc
oui, le projet...
ce port... qui est déjà bien avancé.
Oui, il est déjà bien avancé. Ils ont déjà déforesté à peu près 60 hectares. Enfin, ce sont les Chinois qui financent la construction du port, comme souvent en Afrique maintenant.
Maintenant, oui. De plus en
et
plus.
Donc voilà, donc ils sont en train de faire ce port qui va forcément être très polluant, très perturbant pour toute la biodiversité du coin. Et ce port empiète déjà sur les premières limites qu'on avait fait du parc marin. Donc il faut rendre compatibles les deux entre protection de la biodiversité et économie camerounaise. On n'a pas le choix, de toute façon, il faut faire avec, mais voilà, c'est un peu un pari que j'ai fait et je veux absolument que ce parc marin soit fait, quoi, parce que c'est une région qui mérite d'être protégée. Bon, je parle de la biodiversité, mais bien sûr, il y a les populations humaines aussi qui sont là-bas, et voilà, que j'ai découvert il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Donc personnellement, je voudrais faire en sorte que leur qualité de vie, même si ce sont des gens pauvres, ils ont une certaine qualité de vie et que leur qualité de vie perdure, quoi, ce qui n'est pas évident avec ce port.
En soi, le parc marin consistera à conserver et à protéger certaines espèces marines, dont les tortues,
le lamantin, les loutres, parce qu'il y aura une partie terrestre ou d'estuaire, il y a pas mal de rivières, donc il y aura aussi le parc ira assez loin dans les rivières. Donc il y a toute une faune, il y a des cétacés aussi qui viennent se reproduire dans cette région.
Okay.
Donc il y a ce côté préservation de la biodiversité, mais aussi préservation de nurseries de poissons, parce que les gens du coin sont des pêcheurs artisanaux, et actuellement ils ont à se bagarrer contre des chalutiers industriels. C'est-à-dire que la plus grosse menace pour actuellement, ce sont les chalutiers industriels qui ravent tout le poisson. Et il y a une baisse de capture de poissons par les pêcheries artisanales. Donc l'idée, c'est que ce parc protège aussi des sortes de sanctuaires pour des nurseries de poissons, pour essayer de régénérer un peu certaines espèces. Et puis on mettra, il y a un dispositif qu'on appelle dispositif de concentration de poissons, les DCP. On voudrait en installer plusieurs. Ce sont des espèces de bouées flottantes avec des corps morts où les poissons viennent se réfugier. Donc c'est, voilà, assez automé principe. On a fait ce genre de choses et ça marche très très bien.
Ça marche bien.
Donc l'idée, c'est de faire ça au Cameroun. Donc il y a à la fois des sanctuaires pour la faune, des sanctuaires pour les poissons et puis des zones de pêche artisanale où on améliorait la pêche.
Pour en revenir un peu aux tortues, quelle est l'importance de créer un parc marin pour les tortues au niveau côtier, donc de protéger les...
Bah là, ce sont les côtes en question au sud de Kribi. Il y a à la fois des plages de ponte de plusieurs espèces. Et puis, il y a des aires de croissance. Les aires de croissance, ce sont des tortues d'une espèce, donc des jeunes qui viennent de Bioko. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui sont nés là, mais qui sont nés sur l'île qui est en face, qui est Bioko, qui appartient à la Guinée équatoriale. Et donc, ces jeunes viennent le long des côtes camerounaises pour croître, pour grandir. Donc, l'idée, c'est de protéger cette espèce-là dans son ensemble. C'est-à-dire la protéger à Bioko, au niveau des sites de ponte et de la naissance, et puis après sur leurs aires de croissance. Et les tortues marines peuvent représenter un attrait touristique, écotouristique important. Il y a par exemple le village des Baudjets, qui sera à l'intérieur du parc, et où je voudrais que le siège du parc soit, qui est d'ores et déjà équipé pour faire de l'écotourisme, c'est-à-dire accueillir des petits groupes de touristes qui viendraient, bon, aussi bien d'Yaoundé, mais aussi de pays d'Europe ou des États-Unis, etc., en petits groupes, et les accueillir là-bas. Il y aurait des jeunes qui seraient formés comme guides, qui pourraient les emmener voir des tortues la nuit, qui pourraient les emmener voir des sites sacrés.
Il y aurait une création d'emplois.
Il y a déjà des femmes qui sont organisées dans le cadre de cet écotourisme pour faire de la cuisine traditionnelle. D'autres femmes feraient des choses que les touristes pourraient acheter, des vêtements, de la vannerie, de l'artisanat, etc. Donc tout le monde aurait gagné. C'est toute une filière qu'il faut mettre en route, en place dans le cadre de ce parc, quoi. Et j'y crois vraiment, plus l'hébergement bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des habitants qui ont commencé à faire des petites cases pour accueillir les écotouristes. Donc il y a toute une filière qui permettrait aux gens de mieux vivre, tout en gardant une qualité de vie, une non-urbanisation, disons, de ces villages qui sont des très beaux villages, enfin, au sens où on l'entend en Europe.
Vous parlez de la beauté de ces villages et ça me permet d'en venir à des questions un peu générales sur le Cameroun. Vous êtes arrivé pour la première fois au Cameroun en 1998.
C'est ça.
Oui. C'est ça. Et donc après, très vite, dans le cadre de vos travaux de recherche, vous êtes allé, on va dire, sur les côtes sud-ouest du Cameroun, vers les villages de Kribi et Bodje.
Voilà,
village
c'est
où vous êtes très
c'est
bien
là où je suis le plus, oui. Bah, je suis notable de la chefferie des Bodje.
Voilà. Et comment décririez-vous un peu vos relations avec les populations, que ce soit au niveau de votre travail ou bien même au niveau, on va dire, privé?
Peut-être pas être objectif, même si je suis scientifique. Disons que en 98, j'ai été bien accueilli par la population Yassa, qui est l'une des ethnies
du sud-ouest.
Du sud-ouest, et bon, qui sont des gens que je trouvais extraordinaires, qui sont chaleureux, même si ce sont des gens qui polémiquent facilement. Et les premières fois, on a un petit peu du mal à comprendre parce que on a l'impression qu'ils s'engueulent, mais en fait, c'est leurs
c'est
habitudes.
La manière,
comme ça,
ils
discutent beaucoup comme ça sur des trucs des fois qu'on valent vraiment pas le coup. Enfin bon, voilà, ça fait partie de leur culture. Mais en dehors de ça, ce sont des gens très chaleureux. Et où j'ai commencé à m'intéresser à eux, mais déjà à être proche d'eux, c'est quand j'ai commencé à voir mourir des gens que j'appréciais dans le village. Qu'ils soient jeunes ou vieux, j'ai commencé à les voir mourir. Et mourir bêtement, en quelque sorte.
C'est-à-dire des maladies.
Oui, mais un petit truc. Des fois, c'était un petit bobo qui s'envenimait, qui n'était pas soigné, et voilà. Jusqu'à des maladies plus importantes comme le sida ou autre. Et dans une famille où j'étais plus ou moins intégré, j'ai commencé à voir mourir la mère de la famille. Ouais. Après, la tante, donc la sœur de celle qui était décédée, et me servait de cuisinière, elle-même est décédée, enfin, etc., etc. Donc il y a des choses comme ça qui m'ont choqué vraiment, parce que je pense qu'on aurait pu les sauver avec un minimum de soins, c'est-à-dire bon, soit un dispensaire sur place, soit pouvoir les emmener dans un hôpital pas très loin. Or, ce n'était pas le cas. Elles sont mortes vraiment comme ça, bêtement, disons. Bon. D'autres fois, j'ai pu intervenir pour des furoncles ou des choses comme ça, certaines pathologies qui étaient assez simples pour moi, où j'ai acheté des antibiotiques, j'ai pu faire des injections, etc., et peut-être sauver des personnes, quoi, y compris vraiment des très jeunes enfants. Donc là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. On a créé une association en France, qui a permis avec des médecins d'amener des médicaments, d'aider un dispensaire, aider un hôpital et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai été vraiment intégré à ce village.
Au village, oui.
Et on a essayé de trouver avec la chefferie, essayer de trouver des solutions pour la scolarité, pour la condition féminine où les femmes réclamaient des choses pour elles, et pour les soins du bébé, pour la couture, pour la cuisine, etc. Donc on a essayé de régler problème après problème dans ce village. Et après, les villages voisins étaient jaloux, donc il a fallu s'occuper des villages voisins.
Donc pallier un peu au déficit, on va dire, du gouvernement dans certaines zones par l'accessibilité aux soins,
voilà,
des
alors,
choses comme ça.
Alors bien sûr, quelquefois, quand je vais dans des coins où on ne me connaît pas, on me dira le blanc, ou on va même me dire que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Bon. Et maintenant, je suis notable d'un village, donc je vois les choses plus de l'intérieur, par rapport aux problèmes. Et bon, quand on me traite de blanc ou quand on m'insulte, je réponds du tac au tac par rapport à ça. Parce que je pense que, bon, bien sûr, je suis français, j'y peux rien si je suis né en Champagne. Bon. Et que ma peau est plus blanche que la peau de la plupart des gens, sauf albinos, que sur place. Mais peu importe, je veux dire, bon, voilà, on a le même sang qui coule dans nos veines. J'ai adopté un enfant du village des Bodje, donc je suis encore plus intégré dans ce village et responsable par rapport à une famille. Alors par contre, il y a des choses qui me choquent, pas pendant ces villages, mais plutôt en pleine ville. Il y a une mauvaise évolution, il y a un agrandissement de Douala, de Yaoundé. Et
donc Yaoundé la capitale et Douala la capitale économique.
Voilà, où il y a une démographie complètement explosive, donc une insécurité qui explose en même temps. Une saleté aussi qui arrive dans les rues, parce que les ordures, les rejets d'eau usée, etc.
Il n'y a pas de plan d'urbanisation.
Voilà, il n'y a pas de plan d'urbanisation. Donc il y a beaucoup de bidonvilles. Et bon, là, il y a des choses choquantes. Mais bon, si je peux régler certains problèmes au niveau d'un petit village comme Bodje, je ne peux pas faire au niveau d'une ville de 2 millions d'habitants comme Douala. Et bon, encore dernièrement, j'ai vu un voleur qui venait d'être pris. Voilà, c'est de la violence aussitôt. Ouais. On le tue.
Il y a la vindicte populaire.
Il est lynché. Ouais. Il est lynché sur place immédiatement. Donc des choses comme ça, voilà, c'est un petit peu difficile à comprendre. Mais Et des fois, les pauvres se veulent entre eux.
Ouais.
Bon, j'ai quelqu'un de mon équipe qui est en ville à Kribi. Dernièrement, il a été attaqué. Des gens cagoulés sont rentrés chez lui alors qu'il est pauvre. Mmh. Bon, ils lui ont volé le peu qu'il avait, quoi. Mmh. Donc, le Cameroun, c'est à la fois des paysages extraordinaires qui sont très variés parce qu'il y a les zones volcaniques, les zones désertiques, les zones de forêt tropicale, etc. C'est un pays qui est très chouette, je trouvais, et qu'il faudrait qu'il s'ouvre au tourisme. Il y a des gens qui sont très chaleureux, très accueillants, une diversité de population. Et puis, à côté de ça, il y a des choses bon, qui sont encore choquantes, mais bon, il n'y a pas qu'au Cameroun où il y a des choses choquantes.
Exactement, ouais. C'est vrai que le Cameroun a subi beaucoup de fléaux ces derniers temps, ouais. On va dire la corruption qui, depuis plusieurs années, gangrène le système.
Forte corruption.
Okay. Et puis
un pays riche au niveau de ses ressources, qui est riche, où c'est possible, grâce à ses terres volcaniques, de faire une agriculture qui pourrait rapporter de l'argent et qui pourrait faire vivre tout le monde.
Hein, c'est un peu. Et apporter l'autosuffisance
alimentaire aussi. C'est le potager de l'Afrique centrale, le Cameroun, ouais. Donc il pourrait bien vivre. Or, bon, la corruption fait que les gens qui sont en bas de l'échelle vivent mal, quoi, souvent.
Oui. Vous parliez tout à l'heure des beaux paysages du Cameroun. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous balader un peu dans d'autres régions que le sud-ouest, quoi?
Oui, bien sûr. Je suis allé jusque vers le Tchad, au parc de la Bénoué.
Donc, à l'extrême nord du
Cameroun. Bon, je suis allé au Mont Cameroun, même si je n'ai pas pris le temps jusqu'à présent, mais je voudrais le faire.
De monter pouvoir, jusqu'au sommet.
De pouvoir grimper, je ne sais pas, juste jusqu'au sommet.
Il culmine à un peu plus de 4000 mètres,
oui.
Le Mont Cameroun.
Et qui est un haut lieu de la biodiversité en Afrique, donc bon, ça m'intéresse. Oui, je suis même allé jusqu'à la frontière du Nigeria, par la côte. Bon, il y avait les problèmes de Bakassi à l'époque.
Donc, Bakassi, c'est une péninsule qui
était revendiquée par le Nigeria.
Par le Nigeria, oui.
Donc j'allais voir, je me suis baladé par là pour voir un petit peu les sites de pompe. Ce sont des plages noires, de sable volcanique noir. Mm-hmm. Et j'étais accompagné par des militaires.
Ah.
Non, je connais un peu partout. Il n'y a que le sud-est que je ne connais pas pour l'instant.
Oui.
Et puis, l'intérieur de la forêt, disons. Je n'ai pas pris le temps. Bon, il y a des endroits où j'aurais bien allé, où il y a des très belles cascades, etc. Je n'ai pas pris le temps d'y aller jusqu'à présent parce que c'est presque une expédition. Pour y aller, ça demande un peu de temps, quoi.
Mmh. Pour en revenir sur votre parc marin, vous parliez de cascades. J'aimerais que vous nous parliez un peu des chutes de la Lobée parce que j'ai cru comprendre que les chutes de la Lobée devraient être intégrées au parc marin.
Les chutes de la Lobée, c'est un très bel endroit paysager, justement. C'est le seul endroit au monde où un fleuve se jette à la mer par des chutes.
Directement. Oui.
Directement. Donc ce site est beaucoup fréquenté par les Camerounais. Hein. C'est un lieu où les gens viennent facilement voir. Et en amont des chutes, il y a une crevette d'eau douce, une très grosse crevette d'eau douce, qui est très bonne à manger. Donc c'est un peu la spécialité culinaire de la région. Et donc quand on va visiter les chutes, on vous fait griller des crevettes là sur place. Et c'est un bon moment à passer. Donc ces chutes sont en instance de classement par l'UNESCO, au niveau patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc l'idée, c'est de rattacher ce site des chutes au parc marin pour faire un ensemble, parce que là c'est un ensemble d'eau douce intéressant, et c'est un peu bête d'avoir un parc marin et à quelques encablures un autre site intéressant. Et ça ferait un ensemble écotouristique intéressant. Et il y a là un chef traditionnel qui est un grand musicien camerounais, Eko Roosevelt.
Ouais, le grand Eko Roosevelt.
Voilà, qui est devenu un ami, et donc on essaye de voir les choses ensemble. Il a les mêmes idées que moi au niveau environnemental. Donc voilà, donc on essaye de se battre aussi pour ce site ensemble.
Très bien. Ben écoutez, merci de nous avoir fait partager un peu vos expériences et de nous avoir parlé de votre projet au Cameroun. La porte du Farafina Trip vous reste ouverte pour revenir témoigner.
On en parlera quand le parc sera fait.
Voilà. Donc nous vous souhaitons beaucoup de courage pour
merci.
Tout ça et espérons que tout aille pour le mieux pour les tortues au Cameroun et pour toutes les espèces marines.
Et les populations humaines qui
aussi,
vivent à côté.
Exactement. Merci.
Remerciements en musique à Jacques Frétet avec le roi de la SAP du Cameroun. Sergio Polo, dont j'ai cru comprendre qu'il a rythmé les déplacements de Jacques en voiture lors de son dernier séjour au Cameroun.
Oh, oh, oui. C'est ça, JP, ça. Les amis intimes, sauvez-moi, je suis mort. Je suis mort, sauvez-moi. famille me tue, vraiment.
Sauvez-moi, sauvez-moi, je suis mort. Sauvez-moi, sauvez-moi, Naoui. Sauvez-moi, sauvez-moi, je suis mort. Sauvez-moi, sauvez-moi, Naoui. La vie Bami m'a troublé la tête, n'est-ce pas? La vie Bami m'a tourné le cerveau. La vie Bami m'a troublé la tête. Manga Foro, mais je l'aime parce qu'elle sait garder l'argent. Je l'aime parce qu'elle sait garder un kaboum, kaboum, kaboum. Je l'aime parce qu'elle sait économiser, mais je l'aime parce qu'elle sait me faire le mkui. Que c'est bon. Cyril Bojiko, micro d'or. On a tel missé à l'émio. On a tel missé à trouver Manga Foro, mais je l'aime parce qu'elle sait garder l'argent. Je l'aime parce qu'elle sait garder un capot.
Toujours, toujours.
Je l'aime parce qu'elle sait me faire le tarot. Mais je l'aime parce qu'elle sait me faire le cuit.
Le bon cuit.
La fille va m'éliquer, oh.
Yemale gogo lome, gogo lome, lome die lome. C'est ma, c'est pour, 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 c'est pour,
c'est elle qui me respecte, je vais la garder. La vie parmi les gays. C'est elle qui me respecte, je vais la garder. La vie Mboudao, la vie Bayangam. C'est elle qui me respecte, je vais la garder.
Insultez là-haut, dénigrez-la.
Dites ce que vous voulez, ça n'engage que moi.
Bam, boom, la vie, bam.
Nous arrivons au terme de l'émission du jour qui était consacrée au Cameroun. Cette émission, comme toutes les précédentes, sont disponibles en podcast ou en téléchargement sur le site internet de la radio à l'adresse www.cfmradio.fr à la rubrique de l'émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à la même heure pour une émission qui sera consacrée à un je ne sais encore pas trop quoi. Merci d'avoir suivi cette émission qui vous est proposée et présentée par Jaco depuis le studio de CFM à Kélus. Portez-vous bien et comme on dit au Cameroun, on est ensemble. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Comme d'habitude, on se quitte avec le titre « Djiné » de Salignolo.
Djiné, Leysan, Djiné, Leysan. O malé, wa milang, mingengal, na minganga, banande, ba. Itam ye, yunane, te wo, mingite, anengon, imbok, na mye, kar, minkulanga, bo. Babylon,
Babylon,
my land and I'm gonna want my tongue and your man down a man, man, my tongue, give me Janangi, and I'm gonna go on and die by my jung, my queer Babylon,
Babylon,
my land and I'm gonna want my tongue and your man down a man, man, my tongue, give me Janangi, and I'm gonna gang at a bunny.
Oh, my lay, Wami Lang Ming and Gala Minganga Bon and Deba, it tell me a yanan at the war. Kalmin kulanga bo, eh chine leisan chine leisan. O male wami lang mingengal na minganga bonandeba. Itami ayunan te wo mingite anengoni mbok namye kalmin kulanga bawe. Chine leisan chine.
Tell me,
I'm
gonna
go.
Gine,
Leysan,
Gine.
Mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama,
Farafina Trip sur CFM. Un voyage en musique à travers le continent africain, le mercredi à 22h, le dimanche à 17h.